en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La loi française en matière de publicité pour le vin et les alcools, dont le cognac par exemple, dite loi Evin, a été promulguée en 1991, il y a donc plus de 20 ans, on peut en dresser un bilan. Cette loi est-elle adaptée ou faut-il la nuancer, la préciser, la compléter, voire la réviser ? Écoutez l'intervention du sénateur de l'Aude, Roland Courteau, lors du colloque « Pourquoi aimer le vin ?», colloque présidé par Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques, président de la Société de géographie et président de l'Académie du vin.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, il ne vous faudra que 5 à 10 secondes pour deviner que je suis du Midi. Je suis né sur ces terres qui, sous le règne du vent et l'empire du soleil, n'en finissent pas de faire chanter la vigne depuis des générations et des générations, avec des produits porteurs d'images fortes, images du vigneron authentique, images de la beauté des terroirs, images de l'environnement préservé et images de la qualité et de la naturalité des produits. Cette viticulture, mesdames et messieurs, dans nos régions, a façonné le cœur et l'esprit des habitants. Elle a même façonné les paysages. C'est donc bien de civilisation qu'il s'agit, même si parler de civilisation du vin, c'est commettre un pléonasme, puisque le vin, c'est la civilisation, depuis les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Selon Colette, seul dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre. Selon Claudel, la table entre les convives établit le même niveau, égalité. Et la coupe de vin qui y circule nous emplit envers nos voisins de compréhension et d'indulgence, tolérance. Alors, puissions-nous tous dans le monde politique boire du vin, nous y gagnerions, je crois, en tolérance. Mesdames et messieurs, je voudrais indiquer que nous sommes en train de travailler au niveau de l'Association nationale des élus du vin, que je co-préside avec mon collègue Philippe Martin de la Marne, alors que moi je suis de l'Aude. Nous sommes en train de travailler à une demande officielle auprès du ministre de la Culture portant sur la réalisation d'un inventaire du patrimoine vitivinicole s'inscrivant dans une perspective de valorisation de celui-ci et notamment un eau touristique. Oui, cet inventaire aura pour mission de valoriser notre patrimoine, mais aussi d'éviter des pertes regrettables et irréparables. Sur un autre sujet, plus important encore, je souhaite vous indiquer qu'avec l'ANEV, Association nationale des élus du vin, je le répète volontairement, pour que cela s'imprime dans vos esprits, nous apportons notre plus total soutien à la démarche visant à faire inscrire la tradition française des vins de terroir sur la liste UNESCO représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. D'ailleurs, le vin n'est-il pas mentionné comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, vous le savez tous et toutes, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Je précise également que j'ai par ailleurs déposé au Sénat, c'est vrai, il y a quelques semaines de cela, une proposition de loi visant à affirmer clairement que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Mais, mesdames et messieurs, c'est déjà le cas pour le foie gras. Alors pourquoi diable cela ne serait-il pas le cas pour notre vin ? C'est pour le foie gras inscrit au Code rural, c'est l'article L654-27-1 de ce fameux Code rural que je viens de citer. Bref, mesdames et messieurs, avec la viticulture, et pour reprendre les propos d'un ministre de la Culture, on touche à l'âme du pays. Oui, il faut que la culture du vin n'en déplaise à certains, facteur de bonheur et de cohésion sociale, soit valorisée. Elle ne l'est pas en France. Premier producteur mondial et berceau de la viticulture. Aux États-Unis a été instaurée une sorte de culture du vin. Au Japon, boire du vin, c'est extraordinaire. En Espagne, on a doté le vin d'un statut le distinguant des alcools durs. Chez nous, ce produit naturel, culturel, qui contribue d'éclatante manière au rayonnement de la France, eh bien, il est trop souvent montré du doigt, alors qu'il constitue de surcroît une force de frappe économique non négligeable, puisqu'il représente le premier poste de nos exportations agroalimentaires. En fait, à l'exportation, il représente l'équivalent de 500 TGV ou de 103 Airbus. À l'échelle internationale, le vin français bénéficie d'une belle image de marque et d'un fort pouvoir attractif. Le vin, c'est la France. Partout dans le monde, on développe la culture du vin. Et la France, grand pays producteur, malmène son héritage. Oui, mesdames et messieurs, il existe un lobby. Mais un lobby anti-vin. Je le sais, je le rencontre souvent au Sénat ou au Parlement. L'amalgame vin-alcool dur, qui date de la loi Barzac, 1987. L'amalgame vin-alcool dur a tué le statut spécial du vin, produit du terroir, entrant dans l'alimentation traditionnelle du consommateur. Et sous les coups de boutoir de certaines politiques relayées par des associations très bien subventionnées par l'État, d'ailleurs, le vin est devenu, pour une majorité, une simple boisson alcoolisée, au même titre que le whisky, la vodka, la bière, responsable de tous les maux, évidemment, des accidents de la route, des violences conjugales, des cancers, responsable aussi de l'alcoolisme des jeunes, alors que ces mêmes jeunes ne boivent pas de vin. Comment dès lors s'étonner que la consommation de vin en France, depuis 30 ans, ne cesse de baisser? Oui, mesdames et messieurs, il y a des associations qui sont subventionnées pour taper sur le vin. Pendant que d'autres, comme Vin et Société, avec très très peu de moyens, mettent tout en œuvre pour réhabiliter son image et oser dire que l'on peut aimer le vin. Et c'est tout en votre honneur, Madame Tarbi. Comment voulez-vous que les vignerons français n'aient pas le vin triste? Eux qui s'estiment particulièrement mal aimés, nos viticulteurs vont-ils finir par avoir honte de leurs produits? Et les Français vont-ils devenir des buveurs d'eau, des mangeurs de yaourt? Alors que nous détenons le record de la consommation de médicaments et autres antidépresseurs. Je crois faire partie de ces parlementaires, mesdames et messieurs, qui assurent une défense du vin modérément et intelligemment consommée. Ce qui, n'en déplaise à certains, est tout à fait compatible avec une politique objective de santé publique. Mieux, 20 ou 30 ans de recherche et de travaux scientifiques démontre que consommer modérément, mais régulièrement, le vin est bénéfique à la santé. Comble de l'absurde, alors que tout est fait dans ce pays pour réduire la consommation de vin, l'industrie paramédicale met sur le marché des gélules de resvératrol, je vous signale le prix, 20 euros la boîte de vin, ce même resvératrol que l'on trouve dans le vin, et dont les effets sont si bénéfiques à la santé, selon les scientifiques et les chercheurs qui se sont penchés sur ce problème-là. Mesdames et messieurs, mon champ d'action a toujours été clair. Il s'agit de contribuer à dédiaboliser cette boisson, tout en responsabilisant nos concitoyens. Oui, depuis 20 ans, je dis qu'il faut distinguer le vin des alcools durs en matière de politique de santé ou de communication. Et j'ai déposé à cet effet, plusieurs propositions de loi. Le vin a besoin de se faire connaître. Et le consommateur a besoin d'être informé sur la diversité des productions, la diversité des cépages, des terroirs, des climats, des méthodes d'élaboration. Le vin a besoin d'être précisé sur ses caractéristiques organoleptiques, les arômes, les saveurs, les couleurs. Or, porter l'information sur ces caractéristiques n'est pas inciter à consommer plus, comme cela m'est reproché. Et oui, je le dis et je le répète volontiers, lors de l'examen de la loi Evin au Sénat, j'ai mis en minorité le ministre d'un gouvernement que je soutenais par ailleurs, en faisant adopter un amendement en ce sens. Et cet amendement, malheureusement, n'a eu une durée de vie que d'une dizaine d'heures, puisque sur le coup de 2 heures du matin, par une nuit sans lune, bien, une majorité d'absents a rejeté cet amendement. Ça arrive, c'est ce que l'on appelle le règlement du Sénat. Il arrive parfois que les absents votent. C'est comme cela. Mais je voudrais insister sur un autre aspect des choses. Qu'a donc fait l'Espagne il y a quelques années, si ce n'est d'aller dans le même sens en distinguant le vin des alcools durs dans l'accès à la publicité? C'est exactement ce que je proposais, moi, en 1990 et 1991. L'Espagne a reconnu un statut particulier du vin, dès lors que pour les Espagnols, cette boisson fait partie de l'alimentation traditionnelle du consommateur. J'ai d'ailleurs déposé, voici plusieurs années, une proposition de loi visant à autoriser le parrainage en faveur du vin. Et j'attends toujours qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Cela dit, nous avons pu constater que la loi Evin présentait de surcroît quelques imprécisions sur lesquelles s'appuyaient des associations de lutte contre l'alcoolisme pour attaquer certaines communications sur le vin. Les contentieux étaient nombreux. Il fallut donc préciser et assouplir la loi. Et depuis cette modification, un nouveau champ de communication est ouvert sur les caractéristiques du produit, les arômes, le goût, la couleur. Exemple, touches florales de violette, parfums d'épices et saveurs de fruits, cannelle, cerise, sont autorisées. De même que les références aux facteurs humains et naturels devraient être possibles dans la mesure où les personnages représentés sur une affiche, par exemple, sont directement liés à l'élaboration du produit. Un vendangeur, par exemple, un maître de chai, une vendangeuse, mais en aucun cas à un acte lié à la consommation. Aucun lien ne devra donc être fait avec la réussite, avec la séduction ou avec l'érotisme. En aucun cas, mesdames et messieurs, Claudia Schiffer ne pourra figurer sur une publicité parce qu'elle n'a rien à voir avec la profession de viticultrice. Bref, on peut décrire le produit, mais on ne peut pas valoriser ses effets. On peut donc informer, mais pas inciter à consommer. En fait, ce que l'on m'a refusé au moment de l'examen de la loi Evin a été accepté en partie 14 ans plus tard par le Parlement. Ainsi va la vie. Mais si le contenu de la publicité a pu être précisé et assoupli, Madame Tarby vous l'a dit, par contre, la liste des supports autorisés n'a pas été élargie, à l'exception des affiches et enseignes qui ont été autorisées en 1994. Et puis, publicité sur Internet, mais je vais y revenir. Un autre point de préoccupation que j'ai également tenté de régler par voie d'amendement, il s'agit des campagnes de prévention de l'alcoolisme, au demeurant fort légitimes, mais qui avaient une fâcheuse tendance à se transformer systématiquement en campagne anti-vin. Chacun a en mémoire le verre de vin sur les écrans de télévision, associé à un accident de la route. Chacun a en mémoire le sablier par lequel s'écoulait un liquide rouge ressemblant à du vin, mais ressemblant aussi à du sang. Face à de telles campagnes, ciblant uniquement le vin, j'ai fait adopter un amendement lors de l'examen de la loi Evin, qui figure aujourd'hui d'ailleurs dans le Code de la santé et qui stipule que, dans le cadre des campagnes de prévention de l'alcoolisme, il ne devra pas être fait de discrimination entre les différentes boissons. Cette disposition est-elle respectée? C'est une question que je vous pose, mesdames et messieurs. À vous de me le dire. En tout cas, c'est un point sur lequel nous sommes très vigilants lorsque nous sommes saisis de projets de campagne de prévention de l'alcoolisme au sein du Conseil de modération et de prévention dans lequel, avec Mme Tarby, nous siégeons. Plus récemment encore, c'est par des mesures législatives que nous avons autorisé la publicité sur Internet. À certaines conditions, évidemment, d'ailleurs, afin de préserver les enfants et les adolescents. Était-il normal, mesdames et messieurs, que les Espagnols, les Italiens, les Australiens, les Sud-Africains, les Californiens, les Chiliens aient accès à la publicité sur Internet en faveur de leur vin, mais pas les viticulteurs français? Comme vous pouvez le constater, nous essayons de promouvoir un droit que je qualifierais de raisonnable. Pourquoi pas d'ailleurs des chaînes de télévision spécialisées sur la vigne et le vin? Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Et le CSA, c'est une bonne nouvelle, a donné récemment son feu vert à un projet de chaîne thématique sur la vigne et le vin. Les choses avancent. La pente est rude. La route n'est pas forcément droite, mais nous essayons d'avancer. Et je suis de plus en plus persuadé qu'il faut poursuivre les efforts entrepris visant à éduquer les gens à la consommation de vin. Car à défaut de connaître le vin, les jeunes se tournent volontiers vers d'autres boissons alcooliques consommées par ailleurs avec excès. Il faut pouvoir montrer qu'une consommation modérée de vin peut apporter autant de convivialité, plus de plaisir gustatif, tout en présentant moins de risques. Il y a même mieux, car comment interpréter autrement le fait que l'administration américaine des denrées alimentaires et médicaments recommande de boire du vin dans le cadre de la prévention des maladies thrombotiques ou cérébrovasculaires. Encore une fois, une consommation modérée et régulière du vin est bénéfique à la santé. Et pourtant, mesdames et messieurs, combien de fois ai-je entendu diaboliser le vin sur les bancs du Parlement? Combien de fois le vin a-t-il été pris pour cible? Visiblement, il semble que l'on fasse une fixation sur ce produit. Par contre, on ne semble pas s'émouvoir des pratiques de certains grands alcooliers qui, le samedi soir, vont à la rencontre des jeunes qui organisent des manifestations festives pour leur offrir, c'est-à-dire gratuitement, des échantillons d'alcool dur afin de les initier à ces mêmes alcools durs. Là, visiblement, cela ne semble pas émouvoir mes collègues parlementaires, ainsi que nos ministres. Je me souviens aussi en 2004 de cet amendement qu'il me fallut combattre et qui visait à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles le même message sanitaire que l'on peut lire sur les paquets de cigarettes. Imaginez la chose, sur une bouteille de vin, sur l'étiquette, un message en caractère gras, du style « le vin tue » ou « en consommer peut conduire à la mort ». L'effet aurait été garanti, mesdames et messieurs. Après ça, vous pouvez toujours relancer la consommation du vin en France ou relancer vos exportations. Nous avons écarté cet amendement, scélérat, mais non sans peine. Comme vous pouvez le constater, les excès sont toujours mauvais, surtout lorsqu'ils sont des excès législatifs. Notez à toutes fins utiles que les régions viticoles sont celles où la proportion de maladies alcooliques est la plus faible. Cela s'explique certainement par cette éducation à une consommation responsable et modérée. Le vin relève d'une culture et comme toute culture, cela nécessite un apprentissage. Sur un autre plan, mesdames et messieurs, j'ai également déposé une proposition de loi visant en matière d'information sur le vin à faire la distinction entre publicité et articles de presse rédactionnels. Simplement, la confusion qui a été faite par certains tribunaux entre publicité et articles de presse rédactionnels est extrêmement périlleuse au regard de la liberté d'expression. Tout article qui n'aborderait pas une boisson comme le vin sous l'angle de la dénonciation pudibonde encourrait le risque de censure. En bref, mesdames et messieurs, beaucoup d'observateurs étrangers reste perplexe. La France est le berceau de la viticulture et c'est aussi le pays où la législation est la plus sévère. Or, le souci réside bien dans l'abus et pas dans la consommation en tant que telle. Plusieurs pays européens ont assoupli leur législation, la Finlande, le Danemark l'Espagne, l'Autriche, dans le but de lutter contre les abus et d'éduquer les consommateurs. Et il n'y a que la France pour dicter ce qu'il faut faire. Il serait temps que l'on retrouve une vision juste et équilibrée vis-à-vis du vin, comme ont su le faire les Espagnols ou les Portugais. Pour l'heure, la communication sur le vin est coercitive. Elle n'informe pas, elle culpabilise. Les Français n'ont-ils pas le droit d'être considérés comme des adultes qui disposeraient d'informations équilibrées? Regardez ce qui se passe au Québec, où tout est axé sur la modération et sur une attitude responsable, avec des campagnes d'information faisant appel à l'intelligence, à l'éducation, à la modération. Résultat, au Québec, les efforts d'éducation ont transformé les comportements concernant l'alcoolisme. Le Québec figure parmi les 10 provinces du Canada dans le bas du tableau par rapport aux maladies liées à l'alcoolisme. Pour la France, aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser des questions. Voulons-nous des jeunes qui soient seulement capables de ne réagir qu'à l'interdit ou aux barrières que l'on dispose? Ou au contraire, voulons-nous des jeunes libres, éduqués et responsables? Cela dit, il est vrai, et j'en termine, Monsieur le Président, qu'il est plus facile d'interdire que d'éduquer à la tempérance. C'est plus facile et ça demande moins de moyens. C'est plus facile et ça donne bonne conscience, même si l'on sait que l'efficacité est insignifiante. Oui, il est plus facile de pousser les petits consommateurs à l'abstinence totale que d'éduquer les gros buveurs à une consommation raisonnée. Quelle a été, mesdames et messieurs, l'efficacité d'une politique qui a simplement consisté à poser des interdits? Mesdames et messieurs, poser partout des interdits n'entraîne-t-il pas la déresponsabilisation? Comme vous pouvez le constater, il reste encore du chemin à accomplir pour bénéficier d'un droit raisonnable. J'en termine là-dessus. Un certain Montaigne disait « Faites-leur de bon vin, ils vous feront de bonnes lois. » Croyez dans ma sincérité si je vous dis que c'est tout le sens de mon action. Merci.
Si vous souhaitez écouter deux autres intervenants, et non des moindres, qui se sont exprimés lors de ce colloque « Pourquoi aimer le vin ?», Éric Orsena de l'Académie française et Bernard Pivot de l'Académie Goncourt, tous deux membres de l'Académie du vin, tapez leurs noms respectifs dans « Rechercher » en haut à droite sur notre page d'accueil.